Printemps Rayonnant, épisode 8. Retrouver du temps, partie 2. Alors après une première partie assez longue sur le minimalisme digital et le lien aux écrans pour reprendre le pouvoir sur ton temps, je te partage en cette partie d'autres clés qui m'ont aidé ces dernières années pour sortir du statut de victime et pour reprendre du pouvoir sur ma vie malgré de nombreux aléas de santé. La deuxième clé, du coup, qui fait suite au fait de ne plus aller sur notre téléphone, ou beaucoup moins, c'est cesser de résister à la notion de souffrance et d'adversité. Arrêter de chercher des coupables, consentir au réel et accepter qu'il y a des hauts et des bas, et que sans bas, on ne prend pas conscience de la chance de vivre, même si c'est un peu extrême. Christophe André a des mots plus jolis pour parler de cela. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le jour où j'ai accepté que l'adversité était le loyer de la vie. Les ennuis, les pépins, les échecs, les chagrins, c'est au programme. On perd beaucoup d'énergie à anticiper les ennuis ou à y résister. Il faudrait d'abord adopter une attitude essentielle qui consiste à se dire « il y en aura ». Et quand c'est arrivé, se dire « ok, je fais quoi avec ça ?» Quelles leçons, quels enseignements? On n'a pas d'autre choix que d'accepter le réel. Et l'accepter, ça fait baisser d'un cran nos angoisses. Hélène Bonhomme, fondatrice des Fabuleuses au foyer, écrivait un article dessus début 2026. Elle faisait le constat qu'on nous vend un monde tout lisse, tout beau, et que face aux difficultés de la vie, nous sommes d'autant plus en souffrance. Car notre époque est moins préparée à souffrir. Elle disait « je trouve cette idée profondément libératrice. Non, elle ne console pas magiquement une mère qui veille sur un enfant malade, une femme qui enterre un proche, une épouse blessée, une amie trahie, une maman lessivée par la vie ordinaire. Mais elle nous rappelle que si c'est dur, c'est peut-être simplement parce que nous sommes en vie. » Ce qui rejoint du coup le propos de Christophe André. Cessons de résister au réel de nos vies, de résister à tous les imprévus, car il y en aura, et que c'est le lot de chaque vie humaine. La troisième clé, c'est dépasser le regard des autres. Alors je pense pouvoir dire que j'ai un peu avancé sur ce sujet, car je partais vraiment de loin côté estime de moi à l'adolescence, paralysée par ce que les autres pouvaient penser de moi. Pensée attribuée à d'autres, alors qu'avant tout, c'était mes propres peurs qui parlaient. Raphaël de Casabianca, dans l'épisode 84 de Nouvel Œil, nous dit « on ne se lève pas à 20 ans en se disant « j'ai confiance en moi ». C'est un tas de paramètres, et l'audace compte pour beaucoup, il ne faut jamais avoir peur. C'est fou comme on peut avoir plein de freins inconscients ou conscients, mais en les dépassant, en n'ayant pas peur du regard des autres, les choses s'ouvrent. Nous ne saurons jamais ce que les autres pensent vraiment d'une part, et d'autre part, leurs retours seront toujours le reflet de leur propre vie, leurs peurs, leurs incertitudes, leurs besoins de sécurité, qui parlera quand on reçoit des conseils. Il y a une expression très juste à ce propos. La vie des autres n'est que la vie des autres. C'est l'une des prises de conscience de Pauline Wald, une femme qui a tout quitté pour partir faire le chemin de Compostelle, et elle m'a interpellée dans son livre « Marcher vers son essentiel ». Elle écrit « sur le chemin de la vie, j'ai longtemps cherché à me rassurer en suivant une voie toute balisée. J'ai docilement écouté ce que l'on me disait de faire à chaque étape. J'ai cru que d'autres personnes savaient mieux que moi ce que je devais faire de ma vie. Alors j'ai suivi l'autoroute, prépa, école de commerce, CDI dans la finance, etc. Celle qui va vite. » Alors qu'au fond, je rêvais de tracer mon propre chemin à mon propre rythme. Puis je me suis rendu compte qu'aucune de ces personnes ne savait mieux que moi ce qui était bon pour moi. Elles avaient des idées fondées sur leur vision de la réalité, sur leurs peurs, sur leurs expériences passées. Et elles étaient comme moi, des élèves de la vie, à essayer, à tomber, à se tromper, à se relever. Comprendre cela a été un énorme soulagement. Car si personne ne sait vraiment, si personne n'a de réponse universelle, alors je peux être le capitaine de mon propre navire. Je peux être le capitaine de mon âme. Alors je peux expérimenter la vie comme je le sens. Alors moi seul jugerai si j'ai pris les bonnes décisions ou si je me suis trompé. Suivre son propre chemin, marcher hors des sentiers battus, questionner à chaque carrefour ce qui vibre en nous plutôt que de suivre docilement des balises déjà placées par d'autres, est plus difficile. Il s'agit de réussir à se brancher à son propre GPS, son autorité intérieure plutôt qu'une autorité extérieure. Il s'agit de se relier avec le moindre fragment de vie et de lui faire confiance, lui donner la priorité sur le reste. Même si on avance avec un mètre de visibilité, il s'agit de continuer à suivre la petite lumière. Quatrième clé, Sortir de la culpabilité en acceptant de ne pas être indispensable. On en parlait lorsque j'ai abordé la question de se donner la permission de passer en premier. Souvent, ce que l'on me renvoie, c'est que prendre du temps pour soi, pour ralentir, pour son intériorité, c'est difficile de le faire sans s'autoculpabiliser, car il y a toujours autre chose d'important à faire, ou quand on le fait, d'être respecté et de ne pas être interrompu, et du coup entrer dans une frustration de ne pas être allé au bout de sa démarche. Pour les femmes et pour les mamans notamment, surtout celles qui travaillent à temps plein et qui ont leurs enfants le reste du temps, réussir à grappiller des moments rien que pour soi, cela demande d'être avant tout intentionnel. De choisir le moment le plus opportun et de renoncer à d'autres distractions comme la série du soir. Et surtout, de prévenir. J'ai besoin de 15 minutes pour moi, merci de ne pas me déranger, et de s'adresser à X. Vraiment, je peux te le garantir, quand j'ai accepté que je n'étais pas indispensable, ça a tout changé dans mon rapport au fait de prendre du temps pour moi. Car si je ne suis pas disponible, d'autres peuvent prendre le relais, ou l'enfant peut chercher une réponse ou une occupation par lui-même. Ma psy m'a fait remarquer que mon mari se posait pas trop la question que quand il avait besoin d'aller fumer, il sortait fumer et que parfois ça pouvait durer parce qu'il se lançait dans une vidéo, dans quelque chose, dans une discussion. Et voilà, faut que je m'autorise à me prendre des pauses parce que, certes, je ne fume pas et je n'encourage personne à fumer, mais j'ai autant besoin de pauses que lui. Et tu peux le répéter après moi, j'ai le droit d'avoir des moments de respiration pour moi toute seule. Vas-y, j'ai le droit. Allez, cinquième clé, revenir au corps. D'ailleurs, si on appelle ça des pauses ou des moments de respiration, c'est que tu peux commencer par faire de vrais exercices de respiration. Et personnellement, le faire m'aide à couper mes pensées tous azimuts, car je dis consciemment dans ma tête, j'inspire, je compte 1, 2, 3, 4, 5, puis j'expire. Je le pense vraiment pour éviter d'avoir ma liste de courses qui passe en même temps. Alors bien sûr, tu n'es pas obligé de faire quelque chose de sportif pour revenir au corps. Mais après, rien ne t'en empêche non plus. Les effets sur le bien-être mental ne sont plus à démontrer. Pour cela, tu peux aussi mettre de la musique et bouger, danser. Personnellement, j'aime beaucoup remettre les CD de mon adolescence. Bon, ça marche aussi pour se motiver à faire le ménage. Bref, les seules limites sont celles de ton imagination. Enfin, il me semble qu'une autre clé, c'est d'arriver à sortir du tourbillon qui nous fait tout faire en même temps et un peu exploser, notamment le soir, en ne faisant qu'une seule tâche à la fois. Faire les choses une par une, c'est peut-être contre-intuitif, surtout pour nous les femmes qui nous disons facilement multitâches. Mais je vais à nouveau citer Fabien Olicard dans son livre « Votre attention est votre bien le plus précieux ». Il dit « C'est une illusion d'avancer plus vite quand on fait plein de choses en même temps, car changer de tâche pour le cerveau est plus énergivore que de faire les choses une par une. » Et en même temps, notre cerveau prend plaisir à s'éparpiller plutôt que de faire l'effort de rester concentré sur une seule tâche. Néanmoins, il ne sera plus performant que concentré sur une seule chose à la fois. De plus, il parle aussi de s'octroyer de vraies pauses pour se reposer mentalement. Celles où on ne sollicite pas notre cerveau en le stressant sur Candy Crush ou en le bombardant d'informations sur TikTok. Pour cela, il invite à ne rien faire. Par exemple, 120 secondes de rien. Marcher 10 minutes. Regarder par la fenêtre 5 minutes. Ou encore écouter les besoins primaires de notre corps. Boire, manger, dormir, aller aux toilettes. Septième clé, décharger ses pensées dans un carnet. Je parlais également de retrouver du temps seul, notamment suite à la lecture de Cal Newport sur le minimalisme digital. Dans les clés qu'il propose, il y a celle d'avoir un carnet dans lequel écrire ses pensées, ses idées. Je le cite. « Mes calepins Moleskine ne sont pas exactement des journaux intimes, car je ne les rédige pas de façon régulière. Ces calepins jouent un rôle différent. Ils me servent à écrire des lettres à moi-même quand je me retrouve face à une décision compliquée, à une émotion puissante ou un surcroît d'inspiration. Le temps d'articuler mes pensées dans la forme structurée d'une prose écrite, je parviens souvent à les clarifier. Les bienfaits résident surtout dans l'acte d'écrire lui-même, et je rajouterai dans l'acte d'écrire à la main. C'est la façon dont j'utilise mon carnet qui fait office de journal personnellement, c'est-à-dire quand j'en ressens le besoin plus que tous les jours. J'ai d'autres carnets au quotidien. Un pour le lecturing biblique, où j'écris des paroles bibliques qui me parlent. J'ai mon agenda, bien sûr. Et j'ai le carnet de vol des Fabuleuses, qui comporte un tracker de suivi des bonnes habitudes, un moment pour relire ma journée à travers une to-do list inversée et écrire mes gratitudes quotidiennes. Cal Newport complète plus loin. Ce comportement, à savoir écrire dans un carnet, vous jette nécessairement dans un état de solitude productive en vous arrachant aux babioles numériques et aux contenus addictifs qui ne demandent qu'à vous distraire, en vous donnant un moyen structuré pour éclairer ce qui peut se passer d'important dans votre existence à ce moment. Ainsi, écrire permet de gagner du temps, celui que l'on perd à ressasser nos pensées. Un dernier élément est de retrouver le goût des loisirs qui prennent une place plus enviable que nos téléphones. Mais pas n'importe lesquels. Cal Newport nous fait un détour par Aristote et l'éthique à Nicomaque pour choisir d'opter pour des entreprises qui vous procurent une source de joie intérieure. Il explique ensuite « Je désigne ces sources de joie comme des loisirs de haute qualité en opposition aux diversions numériques de basse qualité qui agissent comme des anesthésiants contre les questionnements existentiels, par essence inconfortables. Diversions qui nous font perdre la notion du temps sans avoir de résultat à la fin. Ainsi, il invite à privilégier des activités exigeantes plutôt qu'une consommation passive. Il met en avant entre autres l'artisanat qui désigne toute activité dans laquelle vous utilisez une compétence pour créer quelque chose ayant une valeur. Transformer un tas de bois en une jolie table est un geste d'artisan, tout comme tricoter un chandail à partir d'une pelote de laine ou rénover une salle de bain sans recourir à des professionnels. L'artisanat ne réclame pas forcément la création d'objets nouveaux. Il peut s'agir également de comportements de haute valeur. Tirer d'une guitare un morceau de musique agréable ou remporter un match de basket en font aussi partie. Et il conclut cette partie de son livre sur la citation « Laissez une bonne trace de vous-même ». Alors je pense que la boucle est bouclée. Pour rayonner, il faut pouvoir laisser une trace, qu'elle soit perceptible ou imperceptible, que les gens se disent « qu'est-ce qu'elle m'inspire au fond ?» Donc voilà, j'espère qu'à travers tous ces exemples, à travers tous ces exercices, à travers toutes ces introspections, tu auras pu glaner des outils qui vont te servir dans ton quotidien. Tu vas pouvoir mettre en place des micro-actions, des micro-objectifs avec la méthode SmartF, que tu vas pouvoir vraiment mettre en œuvre plein de choses qui vont te permettre de rayonner et d'être digne de toutes les fleurs et de toutes les roses et de tout ce qu'on voit qui éclot au printemps. Je te souhaite une très bonne continuation et je suis honorée d'avoir fait ce bout de chemin avec toi. À bientôt !